Aucun homme libre ne sera arrêté, ni emprisonné, ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors la loi, ou exilé, ou exécuté, de quelque manière que ce soit. Et nous n'agirons pas contre lui, et nous n'enverrons personne contre lui, sans un jugement légal de ses pairs et conformément à la loi du royaume. Article 39e de la Grande Charte d'Angleterre en 1215.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre chronique précédente, nous avions présenté la conquête de l'Angleterre par le duc Guillaume de Normandie. Or, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une période capitale sans doute dans l'évolution même de l'État en Angleterre, c'est la période des Plantagenets, et en particulier le texte de la Grande Charte de 1215 qui allait être à la base des libertés anglaises. La dynastie des Plantagenets avait débuté en 1154 en la personne de Henri II. Lui avaient succédé ses fils Richard Cœur de Lion, décédé en 1199, puis Jean Santerre. Le fils de Jean Santerre lui succédant en 1216. Or, c'est sur le règne de Jean Santerre tout particulièrement que je voudrais m'apesantir, si j'ose dire. Parce qu'en effet, ce règne est sans doute capital pour comprendre une évolution institutionnelle de la couronne d'Angleterre. Quand Jean devient roi en 1199, il est à la fois roi d'Angleterre, mais très grand possessionné en France, puisqu'il possède la Normandie, dont il est le duc, mais également le Maine, l'Anjou, le Poitou, l'Aquitaine. Donc, il a véritablement ce que certains historiens ont appelé un empire, l'empire Plantagenet, situé en Angleterre et en France. Or, son règne ne commence pas très bien. En effet, Jean Santerre évoque une grande défiance vis-à-vis de ses vassaux, en particulier ceux de l'ouest de la France, qui se sont détournés de lui à cause d'un mariage forcé. Il avait enlevé Isabelle d'Angoulême à son fiancé légitime, Hugues de Lusignan, et cela avait été finalement peu apprécié. D'autre part, il s'était attiré les foudres de Philippe Auguste, roi de France, puisqu'il avait refusé de se présenter devant celui qui est tout de même son suzerain, et le roi, Philippe, avait donc profité de ce refus pour confisquer les fiefs continentaux et s'emparer facilement de la majeure partie d'entre eux entre 1202 et 1204, et tout particulièrement il s'était emparé de Château-Gaillard sur la Seine et de la Normandie. Désormais, Jean Santerre a bien l'intention de récupérer ces territoires continentaux puisqu'il ne lui reste plus quasiment que l'Aquitaine. Mais pour récupérer ces territoires, il lui faut mener une expédition en France et il faut donc la payer. Or, Jean pressure ses vassaux et pressure les populations anglaises, puisqu'il lève 12 fois plus d'impôts que ceux qu'il avait fait au début de son règne. Or, cela mécontente aussi bien les vassaux, les barons d'Angleterre, que la population anglaise. D'autant plus que ses besoins d'argent n'aboutissent pas à des succès extrêmement probants. Parce qu'il lui faut, outre l'armée, payer également ses alliés, tout particulièrement le comte de Flandre Ferrand, et également l'empereur Othon IV qui avait accepté de soutenir Jean Santerre. Il faut d'ailleurs s'expliquer un instant sur cette expression « Santerre ». En fait, cela lui venait du fait qu'il était né tardivement. Sa mère lui avait donné la vie alors qu'elle avait 45 ans. Et il n'avait pas eu droit à des apanages, c'est-à-dire à des territoires à l'image de ses frères qui avaient été dotés de ces territoires. Et le fait qu'il n'ait pas eu d'apanage lui avait valu le surnom de Santerre. Donc, cette coalition, cette armée anglaise, il faut la payer Et surtout, il faut la faire aboutir à une victoire. Or, vous le savez peut-être, les alliés de Jean Sans Terre vont être écrasés en 1204. À Bouvines, Philippe Auguste triomphe. Jean Sans Terre ne parvient pas donc à récupérer les territoires perdus. La situation s'aggrave pour lui. Plusieurs facteurs expliquent l'aggravation de la situation pour Jean Sans Terre. D'abord, l'Église d'Angleterre est vent debout. En effet, le roi Jean a voulu profiter de son pouvoir pour essayer de confisquer des terres ecclésiastiques et il a de très mauvaises relations avec l'archevêque de Canterbury, Étienne Langton, que d'ailleurs, il, pendant très longtemps, il a voulu éviter la désignation d'Étienne Langton à la tête de l'archevêché de Canterbury. Cela lui a valu d'ailleurs une excommunication pontificale par Innocent III en 1209. Elle est certes levée en 1213, mais pendant 4 ans, eh bien, les relations étaient déplorables entre l'Angleterre et la cour de Rome. Autre élément, c'est que les barons d'Angleterre sont mécontents de la politique royale. Ils veulent avoir leur mot à dire, en particulier pour la levée de ces impôts extraordinaires qui étaient censés financer la guerre. Enfin, les marchands de la cité de Londres avaient été aussi victimes de la politique fiscale du roi. C'est donc une coalition d'élites féodales qui est formée contre lui et qui forme une coalition puissante. En mai 1215, les barons entrent dans Londres. Une négociation s'ouvre et finalement, cette négociation aboutit à la rédaction en juin et juillet de la Magna Carta, de la Grande Charte. Ce document est absolument fondamental dans l'histoire de l'Angleterre parce que le souverain est contraint d'accepter une souveraineté limitée. En effet, dans les dizaines d'articles de la charte, il faut retenir 3 principes. D'abord, personne ne peut être maintenu en prison sans mandat. Finalement, c'est une manière de limiter le pouvoir d'arrestation et même le pouvoir judiciaire du souverain. D'autre part, la justice ne doit pas être vendue. La justice n'est pas un bien commercial, elle doit être rendue en toute équité. Et enfin, et ceci est capital, il ne peut y avoir de taxation sans le consentement de la communauté du royaume. Pour bien vérifier que la grande charte que Jean est obligé d'accepter, eh bien, il y a un conseil de 25 barons qui vérifie que les clauses de la charte sont effectives. On assiste donc à l'ébauche, je dis bien l'ébauche, d'un mécanisme constitutionnel. Le roi va mourir en 1216 et on peut estimer que c'est sous le règne de son fils Henri III, un long règne, 1216 jusqu'en 1272, que va se constituer une nouvelle manière de gouverner l'Angleterre. En effet, après la pression des barons dans les années 1260, Henri III accepte que ce que l'on va appeler le Parlement devienne un véritable contre-pouvoir. On décide qu'il sera réuni à intervalles réguliers et que sa composition sera fixe. C'est-à-dire, on y retrouvera les barons d'Angleterre, les grands ecclésiastiques de l'Église, ainsi, et c'est important, les représentants des comtés et des villes qui seront désignés par les élites de celles-ci. Nous avons donc là le cœur de ce qui deviendra par la suite le Parlement d'Angleterre. En effet, ce Parlement va, à partir du XIVe siècle, devenir une institution pérenne qui sera réunie à intervalles réguliers. Cela ne veut pas dire, et nous y reviendrons, que la monarchie anglaise a, dès le XIVe siècle, accepté ces règles constitutionnelles de discussion entre le Parlement et la Couronne. Bien sûr, il y aura, en particulier avec Henri VII, avec Henri VIII au XVIe siècle, plus tard avec Élisabeth dans la deuxième moitié du XVIe siècle, un pouvoir royal force. Mais il n'en reste pas moins que cette grande charte, plus l'ébauche de ce Parlement, va transformer profondément la manière et la manière surtout d'envisager le pouvoir dans le royaume d'Angleterre.